L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
On va parler de l'actualité internationale avec votre invité ce matin. Il est journaliste et il donne une conférence ce soir sur le thème de Donald Trump, la Chine, le Pacifique et nous.
Oui, notre invité du matin, c'est Richard Verly. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste franco-suisse, spécialiste des relations internationales. Merci d'accepter notre invitation alors que vous êtes actuellement en Nouvelle-Calédonie. Vous donnez ce soir à l'UNC une conférence effectivement sur le thème Donald Trump, la Chine, le Pacifique et nous. Vaste programme. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un livre publié en 2025 et intitulé « Cette Amérique qui nous déteste » et qui va bientôt être publié en poche. Qui êtes-vous, Richard Verly, et pourquoi êtes-vous en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, je suis en Nouvelle-Calédonie pour des raisons personnelles, car j'ai rejoint ma compagne qui travaille ici depuis quelques semaines, quelques mois en réalité. Mais le territoire m'était familier comme journaliste, car j'ai eu la chance d'y venir à deux reprises. C'était il y a quelques années, en 2015 et 2017, notamment en 2017, pour faire une enquête. J'avais passé beaucoup de temps aux archives. Elle était consacrée aux bagnards suisses qui avaient été déportés ici en Nouvelle-Calédonie. On le sait peu, mais il y avait des étrangers parmi les forçats, et notamment des prisonniers de droit commun, d'une part, mais aussi des Suisses qui avaient participé à la Commune de Paris, cette longue histoire que vous connaissez bien. Alors sinon, je suis correspondant à Paris, chargé de la France et de l'Europe pour le quotidien Suisse Blick, qui est le premier quotidien de Suisse, mais également je travaille beaucoup sur les questions géopolitiques, ce qui me donne l'occasion d'être invité régulièrement sur les plateaux de France Info, LCI, et de vous écouter parce que je reste toujours très attentif aux questions du Pacifique, ayant été basé à Bangkok et à Tokyo dans le passé.
Alors parlez-nous de votre livre « Cette Amérique qui nous déteste ». En fait, vous n'êtes pas un anti-américain primaire, comme il y en a beaucoup, mais vous avez écrit cet ouvrage après un road trip aux États-Unis et vous avez été étonné par ce que vous avez découvert.
Oui, c'est un jour d'émotion aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas anti-américain. Et figurez-vous que je suis un fan de country et un fan de Dolly Parton. Donc, on vient d'annoncer son décès. Donc, c'est un jour triste. Je le dis parce que en France, il y a toute une littérature d'essais anti États-Unis sur le thème de l'impérialisme américain. Ce sont des essais essentiellement nourris à gauche, sur le thème le grand Satan américain, la grande puissance qui cherche à étendre son influence, ou bien il y a la tradition gaulliste également, il faut dire non aux États-Unis pour exister. Moi, je suis plus pragmatique, peut-être que c'est mon côté suisse, et j'ai toujours pensé que les États-Unis et l'Europe ont un destin lié, et ça me paraissait évident. Sauf que, lors de mes reportages en 2024, pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, j'ai déjà constaté, même au sein de la base de son mouvement MAGA, le Make America Great Again, combien l'Europe était devenue un objet de détestation. Ça m'a surpris et je me suis dit que là, il fallait creuser. Est-ce que c'était simplement des slogans ? Est-ce que c'était profond ? Or, je me suis aperçu que c'est profond. Il y a aujourd'hui toute une Amérique, l'Amérique de Donald Trump, qui pense que l'Europe a trahi les États-Unis, qui pense que l'Europe devrait obéir aux États-Unis, et c'est là-dessus que j'ai voulu enquêter et que j'ai consacré mon livre.
Mais cette Amérique est convaincue que l'Europe est faible, qu'elle est décadente, qu'elle a pris ses distances avec les États-Unis. Est-ce qu'elle n'a pas raison, d'une certaine manière, quand on voit l'état des démocraties occidentales ? C'est un peu provocateur.
Non, vous voyez juste, c'est toujours pareil avec Donald Trump, et on pourrait étendre le propos à d'autres leaders nationaux populistes, c'est que Donald Trump souvent pose les bonnes questions, ou en tout cas met le doigt sur les bonnes plaies. C'est même sa spécialité, c'est ce qui fait qu'il a été réélu après, pour un second mandat, après avoir cédé la place en 2020 à Joe Biden. Est-ce qu'il y a une part de vrai dans les accusations portées contre l'Europe ? Alors d'abord, il faut les lister, ces accusations. Et vous l'avez dit, il y en a trois principales de la part du camp trumpiste. La première, c'est que l'Europe a trahi les États-Unis, au sens où les États-Unis sont la puissance dominante et que l'Europe devrait les suivre. Au fond, Donald Trump dit l'Europe, ce n'est pas un allié, c'est un vassal. On l'a vu avec le Groenland, puisque en gros, il veut annexer le Groenland, il veut le demander l'avis à personne, il pense que c'est un territoire américain, ou en tout cas que ça devrait le devenir. Sur ce sujet-là, très franchement, on doit lui dire non. Non, l'Europe n'a pas vocation à être vassale des États-Unis. Allié ne veut pas dire vassal. Ensuite, il y a un deuxième reproche. Est-ce que l'Europe, finalement, au regard de l'histoire, elle n'a pas pris trop de distance avec les États-Unis ? Est-ce qu'elle n'a pas, en quelque sorte, la reconnaissance du ventre ? Et surtout, est-ce qu'elle est chroniquement faible ? Parce que c'est ça, l'accusation. C'est de dire, en 1940, 42 plus exactement, il faut s'en souvenir, les États-Unis interviennent, ils sauvent sauve l'Europe démocratique, c'est une réalité. Ensuite, ils sont partie prenante dans la création de l'Union européenne, pas de manière directe, mais les États-Unis veulent que l'Europe se mette ensemble essentiellement pour éviter un nouveau conflit. Eh bien, est-ce que cette Europe, elle a oublié les États-Unis ? Oui, un peu, mais le système de droit international auquel l'Union européenne prétend adhérer, c'est un système que les États-Unis ont créé. L'Organisation des Nations Unies a été créée par les États-Unis. Donc il y a un paradoxe de la part des États-Unis à reprocher à l'Europe, finalement, d'avoir suivi ce qui, à l'époque, était un modèle instillé par les États-Unis sur le thème de la démocratie mondiale. Et enfin, troisième reproche, c'est peut-être celui qu'il faut entendre, c'est est-ce que l'Europe n'a pas oublié de défendre ses valeurs ? Est-ce que les valeurs occidentales ne sont pas mises en péril, notamment par l'immigration que Donald Trump qualifie de massive ? Là, il y a une question. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis qu'il faut se poser ces questions. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a un débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. On n'a pas attendu Donald Trump pour s'interroger. Et puis, il y a aussi ce reproche qui, à mon avis, est le plus sensé. Est-ce que l'Europe est un continent d'avenir ? Est-ce qu'on peut parier sur l'Europe alors que nous sommes absents, nous les Européens, et je mets la Suisse dedans, nous sommes absents sur le terrain des géants de l'Internet, sur le terrain de l'intelligence artificielle. Alors j'exagère en disant absent, mais nous sommes beaucoup trop absents, alors que ce sont ces enjeux qui vont définir le monde de demain.
Et alors que les États-Unis, ils sont évidemment très, très largement leaders. D'autre côté, est-ce qu'on ne sait pas aussi, les Européens, leurrer sur nos relations avec les États-Unis ? Est-ce que ça n'a pas toujours été finalement une histoire de rapport de force et de domination ? Et qu'il n'y avait pas cet aspect un peu romantique qu'on a voulu mettre dans nos relations franco-américaines ou européo-américaines ?
On a voulu oublier collectivement, et le « on » est un peu injuste, parce qu'il faudrait dire là que la France a toujours tenu bon. C'est précisément l'héritage gaulliste. Ce qu'il faut reconnaître au général de Gaulle, c'est d'avoir été lucide sur l'impérialisme américain, à savoir que les États-Unis sont un allié incontournable, mais les États-Unis sont une puissance dominante dont il faut savoir s'affranchir. Pour d'autres pays européens, il y a eu, vous avez raison, il y a eu cette naïveté, mais c'était une naïveté largement imposée. La révolution culturelle aujourd'hui, qu'impose le trumpisme, et qui est décrite par mon livre, elle est très très forte dans un pays comme l'Allemagne. Vous imaginez l'Allemagne, c'est un pays qui en quelque sorte a été recréé, je parle de l'Allemagne démocratique, la République fédérale qui s'est réunifiée en 1990, elle a été créée, portée à bout de bras par les États-Unis, protégée par les États-Unis. L'armée allemande actuelle, la Bundeswehr, est une armée totalement américanisée. Et maintenant, on demande à ce pays qui est le moteur économique de l'Europe d'être non pas anti-américain, mais de s'affranchir des États-Unis. C'est extrêmement dur, et un élément ne vous a pas échappé, la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, est allemande.
Pour en revenir ou pour en venir dans le Pacifique, là aussi il y a quelques ambiguïtés, mais quelle place y ont les États-Unis ? Comment est-ce qu'ils considèrent cette région du monde ? Est-ce que ça fait partie encore de leur zone d'influence ?
Ah, plus que ça. C'est le vrai champ de bataille. Le Pacifique, et là, Donald Trump n'est pas le premier à le dire. Barack Obama l'avait dit et l'avait élaboré. Ensuite, Joe Biden également, avec ce sommet des démocraties et ce sommet des États du Pacifique. C'est le champ de bataille d'avenir pour les États-Unis, pour deux raisons essentielles. La première, c'est évidemment la Chine. C'est là que se joue concrètement la bataille de puissance avec la Chine, puisque c'est dans l'océan Pacifique que ces deux puissances sont confrontées les unes aux autres. Regardez ce qui se passe. Alors, on parle beaucoup en Nouvelle-Calédonie de ce tir de missile balistique récent chinois, mais regardez ce qui se passe aux Philippines. Aux Philippines, au large des Philippines, tous les jours, des navires chinois arraisonnent ou ont une collision suspecte avec des bateaux philippins, un pays, les Philippines, qui est allié des États-Unis. Donc, c'est un théâtre essentiel. Et la deuxième raison, c'est parce que se joue ici, à plein de points de vue, la question de la domination technologique et numérique. Parce que c'est la région qui est traversée par les câbles sous-marins, c'est une région qui est directement, je dirais, surveillée par les constellations de satellites du fait que c'est une région extrêmement étendue. Et ça paraît bizarre, parce que c'est pas une région de densité de population énorme, mais pour les États-Unis, le contrôle du Pacifique. Et puis, il y a l'histoire. Très franchement, c'est sur ce terrain, c'est ici même, dans le Pacifique, que les États-Unis ont été attaqués. Et d'ailleurs, Donald Trump ne s'était pas privé de le rappeler à la première ministre japonaise lorsqu'elle lui avait rendu visite récemment à la Maison-Blanche. Attaqué par surprise le 2 décembre 1941 à Pearl Harbor. Ça, ce sont des dates qui marquent et on ne l'enlèvera pas de l'histoire des États-Unis. Le Pacifique, c'est là où les États-Unis peuvent être attaqués.
Et pourtant, il y a énormément de très nombreux petits États du Pacifique qui sont déjà tombés dans l'orbite chinoise, qui sont... La Chine est très présente, des accords de défense, des accords économiques. Ça inquiète les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils ne ripostent pas dans tous ces États?
Alors, ça inquiète les États-Unis, oui, évidemment. Et les États-Unis ripostent. Il y a une stratégie, par exemple, militaire, notamment dans le Pacifique Nord, c'est-à-dire cette ceinture d'États qui fait face à la Chine, pour consolider la présence militaire américaine. On le voit moins ici, en Nouvelle-Calédonie ou dans le Pacifique Sud, parce que tout simplement, on est plus éloigné et que dans le raisonnement stratégique américain, ce territoire, la Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie, sont des territoires français et donc ils appartiennent à un État occidental capable de les défendre si la Chine intervient. Ça, je résume la pensée américaine. Donc les États-Unis s'en préoccupent. La seule chose qu'il faut avoir, c'est faire preuve de lucidité. Il faut faire une différence entre la Chine qui avance ses pions économiques. Elle se considère comme la puissance dominante de la région et à chaque fois qu'une porte sera ouverte, elle va s'y engouffrer. Et la capacité de la Chine à contrôler cette région. Ce sont quand même deux choses différentes. Alors oui, la Chine est présente dans un certain nombre d'îles. Première demande qu'elle fait dès qu'elle amène des investissements, vous cessez de reconnaître Taïwan, qui est la question cruciale pour la Chine. Est-ce que la Chine a en revanche les moyens de contrôler cet immense océan Pacifique ? À l'heure d'aujourd'hui, non. Si vous regardez la disproportion des forces entre ce que les États-Unis peuvent mettre, je dirais, dans l'océan en termes de moyens et ce que la Chine peut mettre, c'est encore très largement à l'avantage des États-Unis, avec un petit bémol, c'est la guerre en Iran, qui notamment, en ce moment, nous permet de voir que les arsenaux américains sont en train d'être vidés, que toute l'énergie que les États-Unis et le Trump consacrent à l'Iran affaiblissent de facto la puissance américaine dans cette région, et ça, la Chine le regarde.
Bon, et la Calédonie dans tout ça, quel est son rôle, quelle est sa place dans ce combat entre superpuissances, et est-ce que comment les États-Unis, comment l'Amérique de Trump regarde la Nouvelle-Calédonie, si elle la regarde d'ailleurs?
Oui, je pense que les États-Unis, c'est même une certitude, regardent la Nouvelle-Calédonie et l'ont en tête, ne serait-ce que pour des raisons historiques. Là aussi, ce n'est pas à vous que je vais le dire, les États-Unis étaient présents ici, ils connaissent les moindres recoins de la Nouvelle-Calédonie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont cartographié ce pays, ses ressources, ils savent très bien ce qu'il en est. La seule chose, c'est qu'il y a une sorte de division des forces, en quelque sorte. Ils estiment que la Nouvelle-Calédonie étant sous contrôle de la France, ce n'est pas une priorité stratégique. Si en revanche, le statut de la Nouvelle-Calédonie devait changer et que l'indépendance devait être aux portes, on peut être certain que les États-Unis, bien évidemment, via l'Australie qui est voisine, s'en préoccuperaient très très vite. Par contre, est-ce que les États-Unis, quel rôle ils voient à la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, ils lui voient toujours le même rôle. Au fond, le rôle de base logistique. Ça a été son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. La Nouvelle-Calédonie est le porte-avions idéal, vous savez, c'est la fameuse citation de MacArthur, c'est le porte-avions idéal d'une possible nouvelle guerre dans le Pacifique. Et de ce point de vue, les États-Unis regardent. Par contre, ils ont besoin, ils ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils sont plutôt militairement sur le Pacifique Nord. Et puis, pour l'instant, et c'est là où c'est paradoxal, vous avez sur le théâtre européen une France, un Emmanuel Macron, qui est aux avant-postes de la résistance aux États-Unis. On résiste à l'impérialisme américain, on défend la puissance européenne, la souveraineté européenne. Vous avez M. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui pourfend les géants de la tech américaine. Si vous basculez de l'autre côté du monde, ici même, en fait, il y a une convergence d'intérêts. La France a des intérêts convergents avec les États-Unis de Donald Trump, c'est-à-dire résister à la puissance chinoise, même si on a aussi besoin de commercer avec la Chine et éventuellement de conclure des pactes d'investissement. Je crois que la Chine s'intéresse à votre usine de nickel au nord.
L'axe Indo-Pacifique qui est défendu par Emmanuel Macron, il a une réalité pour les États-Unis ? Ou est-ce que ce n'est pas du tout leur sujet et qui laisse la France jouer, entre guillemets, avec ces relations-là ?
Je ne pense pas qu'il ait une réalité stratégique, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait, je serais très surpris qu'il y ait un général américain qui un jour arrive dans le bureau de Donald Trump en disant « Monsieur le Président, nous sommes tranquilles, la France a une stratégie indo-pacifique ». Je ne le crois pas. Je crois en revanche que du point de vue de la France et de l'expression de la puissance française, c'était important de coucher sur le papier un certain nombre de priorités et de le répéter comme l'a fait Emmanuel Macron au sommet de Singapour du Shangri-La Forum en 2025. Donc l'effort stratégique, l'effort conceptuel était important. Est-ce que ça a une incidence sur le rapport de force? Je ne le pense pas. Un point important, c'est que en réalité, ce qu'il faut, c'est une stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique. Elle existe. Il y a un document, si vous fouillez dans les archives numériques de l'Union européenne, vous verrez, je crois qu'elle remonte aux années 2020, mais il faut que l'Europe se saisisse de ces territoires. Quand je dis de ces territoires au pluriel, je dis les différents territoires français du Pacifique. Il y a d'ailleurs un bureau ici européen qui s'en occupe. Pourquoi ? Parce que c'est ici que l'Europe est présente. La bataille du Pacifique, l'Europe doit aussi la jouer. Ce sont des ressources énormes. C'est un enjeu, je l'ai dit, sur le plan numérique avec les câbles sous-marins. D'ailleurs, il y a un projet de câble qui passerait par la Nouvelle-Calédonie pour Wallis et Futuna et la Polynésie que l'Union européenne envisage de financer. Tout ça, c'est très important. Le problème, c'est qu'à Bruxelles, eh bien, la Calédonie, c'est loin. Et en plus, la Calédonie est française. Aller convaincre les 26 autres pays européens de dépenser de l'argent et de faire des efforts pour un territoire qui est celui de la République française.
Pour résumer grossièrement, cette Amérique qui nous déteste, elle nous déteste moins dans le Pacifique, en fait.
Je pense qu'elle ne nous déteste pas dans le Pacifique. Je pense qu'il y a, encore une fois, une convergence de vues, une alliance de facto, que les Calédoniens rendent bien aux États-Unis. J'étais il y a 2 semaines à la foire de Bouraille et j'ai été surpris de voir qu'il y a aussi des cow-boys en Nouvelle-Calédonie. Donc, visiblement, la disparition de Dolly Parton va aussi faire pleurer dans quelques chaumières en Nouvelle-Calédonie. Non, plus sérieusement, il y a un héritage historique assumé. La difficulté, encore une fois, c'est comment pouvez-vous être en Europe, le chantre de l'autonomie européenne, et dans le Pacifique, avoir une convergence de vues avec les États-Unis, la réponse, elle est simple. Il faut que l'Europe soit une puissance des deux côtés du monde, dans l'Atlantique, mais aussi ici dans le Pacifique, et ça passe par les territoires français.
Tout cela est passionnant, et donc vous donnez, Richard Verly, une conférence ce soir à l'université sur le thème « Donald Trump, la Chine, le Pacifique ». Et nous, c'est à 18h et on invite bien sûr les auditeurs à aller vous écouter. Merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup.